Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
Je vous en prie.
Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
Au commencement était l'action.
Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
Que je fais souvent en fait quand ça va pas, quand j'ai besoin d'avoir des réponses, c'est que j'arrête de réfléchir. Je coupe les réseaux sociaux, je coupe mon téléphone, je dis aux gens que je suis indisponible et je me lève le matin sans savoir ce que je vais faire dans la journée. Et du coup, j'ai lâché pendant 4-5 jours et à la fin de la semaine, déclic, je me suis dit « Ok, là, il faut que je mette le projet en pause. »
Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Aujourd'hui, je rencontre Marie-Stéphanie Servos, journaliste et entrepreneuse, pour évoquer un sujet dont on parle rarement, celui d'une bascule qui ne se passe pas comme prévu. Une bascule qui peut parfois vous rendre la vie infernale et le choix cornélien de continuer ou de mettre en pause un projet qui nous tient souvent très à cœur. Marie-Stéphanie est journaliste au Elle lorsqu'elle se prend de passion pour la place des femmes dans le monde de l'art. Elle crée alors le podcast Femmes d'art, suivi bientôt des événements et la publication d'un livre du même nom. L'engouement est tel que Marie-Stéphanie décide de quitter son job pour se lancer sur ce projet passion à temps plein. Mais au bout de quelques mois, elle s'épuise à la tâche, rencontre beaucoup d'obstacles pour monétiser le projet et pâtit de l'instabilité financière inhérente au projet. Que faire alors? S'accrocher, persévérer ou arrêter? Marie-Stéphanie fait le choix de reprendre un job stable et de mettre en pause le projet quelques mois. Certains y voient un aveu d'échec. J'y vois un grand courage, de la clairvoyance et une femme brillante qui livre ici un témoignage tellement utile pour les porteurs de projets. Parce que les difficultés et les obstacles forgent aussi qui nous sommes et nos décisions futures. À mettre dans toutes les oreilles donc. Belle écoute!
Bonjour Marie-Stéphanie, je suis ravie de te recevoir sur le podcast, que tu puisses prêter ta voix au podcast pour commencer cette nouvelle saison 2024.
Je commence la saison, ok, je suis hyper flattée.
Peut-être avant toute chose, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Ok, donc je suis Marie-Stéphanie Servos, j'ai 31 ans, j'habite à Paris et je suis journaliste. Actuellement, je suis rédactrice en chef d'un média féminin qui s'appelle Mademoiselle. Et j'ai aussi fondé un média et un réseau qui s'appelle Femmes d'art. Je suis autrice d'un livre qui s'appelle également Femmes d'art.
Oui, bah c'est d'ailleurs par là, moi, que je t'ai découverte. Et c'est aussi ce pourquoi j'avais envie de t'entendre sur le podcast. C'est que, avant de monter Femme d'art, donc tu étais déjà journaliste. Et ce qui est... Enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'était que tu puisses aussi parler de ce projet, de comment il était né, de comment t'étais venue l'idée et de comment tu l'avais développé.
Ouais. Et bien, effectivement, j'étais journaliste avant de lancer Femme d'art. J'ai une formation de radio, donc j'ai commencé par la radio et très rapidement, parce que le milieu de la radio est assez compliqué à intégrer quand on est journaliste, il y a beaucoup de concurrence, très peu de place. Très rapidement, du coup, je me suis tournée vers la presse écrite et j'ai travaillé pour le magazine Elle. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de créer Femme d'art parce que donc je travaillais pour une rubrique qui s'appelle Elle Active qui s'intéresse à la place des femmes dans le monde économique. Sous plein d'angles différents, à travers des articles pour le site, pour des hors-séries et à travers des événements aussi. Et en tant que ex de la radio, j'adore le son. Enfin, la radio reste mon média de prédilection et j'avais très, très envie de... Là, ça remonte à 2019. Donc les podcasts étaient déjà arrivés en France, mais ce n'était pas encore autant développé qu'aujourd'hui. Et j'avais très envie de monter moi aussi mon podcast, mais je ne savais pas encore sur quoi. Et il se trouve que j'adore l'art, que je suis amatrice d'art, pas du tout experte. J'ai fait une ou deux années d'histoire de l'art quand j'étais à la fac, mais je veux dire, je n'ai pas des connaissances d'experte. Mais j'adore aller dans les musées, j'adore aller dans les galeries. Et à l'époque, en fait, vu que je m'intéressais à la place des femmes dans le monde en général, j'ai commencé à me demander... Oh tiens, je ne connais pas énormément de femmes artistes. Enfin, tu vois, Frida Kahlo, Louise Bourgeois, des artistes femmes très connues, très commerciales aussi, comme Frida Kahlo, qu'on voit sur les tasses, des carnets, des coussins, partout. Et je me disais, mais c'est étrange, je ne connais pas énormément de femmes artistes. Je vais aller au musée pour en découvrir de nouvelles. Et donc, je suis allée dans un musée. Et je me suis rendu compte que, c'était très compliqué de trouver des femmes artistes. Je regardais, les petits cartels au bas des tableaux. Je voyais que c'était que des hommes. Et je voyais pourtant que représentées sur les toiles, en sculpture, c'était des femmes. Très souvent nues, très souvent dans des positions de domination, où elles étaient dominées. Et je me suis dit, attends, il y a un sujet quand même. Parce qu'on ne va pas me faire croire que les femmes n'ont jamais créé, que les femmes n'ont pas été créatrices. Et au même moment, ma red chef de l'époque, OL, me dit « Tiens, est-ce que tu peux interviewer Camille Morino, qui est donc la fondatrice de Aware, l'association Archives for Women Artists Research and Exhibition ?» Et donc, première association et seule association en France qui s'intéressait vraiment à la place des femmes dans l'histoire de l'art. C'était les 5 ans de l'association, elle me dit « Interview-la ». Et en fait, j'en ai profité pour lui poser toutes mes questions et je me suis rendu compte qu'il y avait un vaste sujet et que les femmes artistes avaient de tout temps existé, que c'était que simplement elles avaient été écartées et invisibilisées de l'histoire de l'art et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait très peu de femmes dans les musées en tant qu'artistes, qu'il y avait aussi tout un sujet sur la représentation des femmes en tant que muse, par exemple, ce fameux concept. Et je me suis dit, OK, c'est ça mon sujet, en fait. C'est ça mon sujet de podcast. En plus, à l'époque, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y avait très peu de contenu en français dessus. Il y avait des choses aux États-Unis, il y avait des choses en Angleterre, notamment le très chouette podcast The Great Woman Artist. Mais il y avait peu de choses en France. Et je me suis dit, OK, j'ai envie de donner la parole à des femmes comme Camille Morino, qui travaillent pour redonner une place à toutes ces femmes artistes. Et aussi d'aller interroger des artistes femmes contemporaines, parce qu'en m'intéressant au sujet, je me suis dit qu'il n'y avait pas non plus de femmes, énormément de femmes dans les galeries. Les grosses galeries, en 2019, tu regardais les noms, les listes des artistes représentés.
Tu as des statistiques là-dessus, par exemple ?
Il y a des statistiques que je n'ai plus en tête, honnêtement, que je pourrais te donner. Mais ouais, il y a des statistiques sur le nombre de femmes représentées dans des musées comme le musée d'Orsay, le musée du Louvre, et aussi le nombre d'expos qui leur sont consacrées. Et j'ai plus le chiffre en tête, je l'avais publié sur le compte Instagram de Femmes d'art à l'époque, mais Il y a une époque où le musée d'Orsay, je ne veux pas taper directement sur le musée d'Orsay parce que comme tous les musées, ils ont fait énormément de progrès aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quelque chose comme 4% tu vois, de femmes dans les collections. Ouais. Et parfois, c'est 4% de femmes, mais qui sont dans les réserves, donc qui ne sont même pas montrées. Donc, c'est extrêmement peu. Il y a eu des chiffres aussi sur les galeries, qui ont notamment les galeries et les foires, qui avaient notamment été produits par une galerie qui s'appelle Art Girls Gallery, et qui montrait que la place dédiée aux femmes était extrêmement faible. Mais je te dis, il suffisait vraiment juste d'aller sur le site des galeries et de taper artiste et de regarder les noms. Et en fait, il y avait certaines galeries où il n'y avait juste pas une seule femme, d'autres où il y en avait une, mais sur 20 artistes. Et sauf que là, on parle d'artistes contemporaines. Et aujourd'hui, en termes de chiffres, dans les études d'art, il y a 60% de femmes. Donc, il y a un problème, que ce soit par la suite en tant qu'artiste ou aussi à des postes de direction dans des institutions, des musées, ce qui s'est là aussi aujourd'hui beaucoup, beaucoup amélioré. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Enfin, il y avait énormément de femmes dans des postes, on va dire, à des postes d'encadrement ou des postes de coordination, de logistique. Mais à des vrais postes de direction, ce n'était pas tout à fait paritaire, enfin, pas du tout même. Ça va mieux aujourd'hui. C'est cool, il faut le dire. mais disons que le chemin commence juste à être fait.
Donc, tu commences par ce podcast.
Ouais.
Donc, tes premiers épisodes, c'est aussi parmi les personnes que tu as déjà interviewées pour le L.
J'ai vraiment commencé tout de suite.
OK.
Donc, ma première interview, c'était Camille Morino. La deuxième, c'était une artiste qui s'appelle Tiffany Buell, qui est une artiste franco-japonaise contemporaine, qui est depuis devenue une de mes très, très bonnes amies. Et en fait, ça s'est fait dans la foulée, on va dire. Je me suis plus intéressée à ce sujet-là avec Femmes d'art qu'avec le L, parce qu'après, pour le L, je traitais aussi, tu vois, de la place des femmes en politique, dans le sport, dans la santé. C'était très varié.
Donc, tu commences, tu fais quelques épisodes à côté de ton travail. Tu arrives à allier les deux.
À l'époque, oui. Ouais, à l'époque, oui. Bah, en fait, je faisais ça le soir. Et le week-end. Et vu que ça me passionnait, je pense que tu sais ce que c'est aussi. Ouais. Quand il y a quelque chose qui te passionne, tu ne comptes pas les heures. Et à l'époque, j'avais aussi pas d'enfant. Donc, je n'avais pas la même énergie. Et toute mon énergie était mise dans ce projet avec passion. Donc, j'arrivais à jongler.
Et quand est-ce que, du coup, Femmes d'art devient plus qu'un podcast?
Là, je commence donc le projet. Très rapidement, je vois qu'il y a un fort engouement. Je ne m'y attendais pas du tout. C'était vraiment de la recherche un peu personnelle au début. Je vois qu'il y a beaucoup d'écoutes. Je crée le compte Instagram. Les gens s'abonnent. Je me dis, trop cool, ça part bien. Mais ça reste ce petit loisir, ce petit hobby qui me faisait plaisir. Et c'était à la fin de la première année du Covid, donc fin 2020. Fin de mon contrat au L, qui était un CDD, on me propose autre chose. Ça ne me convenait pas à l'époque. C'était quelque chose qui avait moins à voir avec ce que je faisais, donc le journalisme. J'avais pas très envie de poursuivre. Femmes d'art avait pris vraiment beaucoup, beaucoup d'ampleur à ce moment-là. Je suis tombée enceinte aussi à ce moment-là. Et à peu près dans le même temps, j'ai été contactée par une maison d'édition, les éditions Le Duc, qui aimait beaucoup le podcast et tout le contenu qui était créé sur le compte Instagram et qui, du coup, me proposait d'écrire un livre. On était sur la fin de l'année 2020 et la proposition, je crois, m'a été faite genre en novembre et la publication, c'était pour octobre. Donc, c'était rapide. Ouais. Et je me suis dit, OK, en fait, là, mon contrat arrive à terme. J'ai la possibilité de toucher le chômage aussi, donc d'avoir, mine de rien, un petit temps où je peux préparer les choses, planifier, et où je sais que ce n'était pas énorme mon chômage, mais je savais que j'avais cet espace-là pour quand même être safe financièrement. Ma grossesse aussi, donc mon accouchement qui arrivait, donc je me suis dit, c'est là que tout commence. et puis, on va voir s'il faut donner une chance à ce projet qui prenait de plus en plus de place dans ma vie aussi. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que tout était un peu réuni au même moment et que j'avais le temps et que j'avais envie de me l'octroyer ce temps et de vraiment donner toute sa chance au projet.
Et attends, donc là, ça faisait combien de temps que tu avais lancé le podcast quand tu décides vraiment d'arrêter, de prendre le chômage pour continuer à développer le projet? Ça fait combien de temps?
Ça faisait un an et demi à peu près.
Ok, oui, donc tu avais quand même bien eu le temps.
Un an. Okay. Entre un an et un an et demi. Donc ouais. Et entre-temps, il y avait quand même eu le confinement. Et c'est vraiment au moment du confinement où tout a explosé. Les écoutes, le nombre de personnes qui suivaient le compte Instagram... C'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à recevoir des propositions de collaboration où des musées, des institutions me contactaient, des galeries, en me disant « on aimerait bien travailler avec vous ». Et moi, j'étais là « mais quoi, je ne comprends pas, enfin, je sais de quoi vous me parlez, travailler avec moi ». Donc, ça arrivait aussi à un moment où, où je me posais la question, enfin, c'est pas que je me posais la question, c'est que je me disais « il faut transformer le projet ». Pour le penser de façon à le monétiser, parce qu'il y a des demandes qui émanent de potentiels partenaires ou clients, on va dire. Et de l'autre côté, j'y passe de plus en plus de temps. Ouais. Et quand même, c'est du travail. Même si, quand c'est un métier passion, quand c'est un projet passion, tu as toujours ce truc où tu te dis c'est pas du travail, c'est du plaisir. Ben, en fait, si, dans les faits, c'est du travail. Et le travail, ça se rémunère et c'est de la création de. D'un contenu qui a de la valeur pour les personnes qui le consomment, pour les auditeurs. Mais moi, j'avais aussi beaucoup de chercheurs, d'historiens qui écoutaient le podcast, qui ont acheté le livre aussi. Mais bon, le livre, j'avais un contrat d'édition. Tu vois, le podcast, je n'avais pas, pas de revenus, quoi.
Et donc, du coup, tu as ton premier enfant. C'est, tu touches le chômage quand même, ce qui te permet de pas être vraiment à risque. Et est-ce que tu te mets un objectif de dans tant de mois, il faut que j'arrive à, je sais pas, avoir tel salaire, tu vois?
Ouais, carrément, carrément. Bah, pour te remettre un peu dans la chronologie, ma fille est née en juin, donc j'ai quitté l'EL fin 2020. J'ai eu cette proposition d'écriture du livre, donc on va dire les 5 mois qui ont suivi, je me suis concentrée sur l'écriture du livre. J'ai rendu mon manuscrit mi-mai et ma fille est née le 6 juin. Donc, c'était un peu sport. Mais la première partie d'année a vraiment été consacrée au livre et je m'étais dit, dès la rentrée, dès que j'ai passé mon congé maternité, je me consacre à vraiment cadrer le projet. Donc, ma fille est née. Énorme tsunami auquel je ne m'attendais pas du tout, comme je crois pas mal de parents, mais ça a été une grosse claque dans ma figure à ce moment-là et j'ai assez mal vécu mon postpartum parce que je pensais que j'allais pouvoir bosser. J'étais entourée de gens qui avaient eu des enfants marketing, qui dormaient tout le temps et qui du coup laissaient la possibilité à leurs parents d'avoir des activités. Et moi, ma fille, elle ne dormait pas. Elle pleurait constamment. Et je me souviens parce que je devais relire mon manuscrit avant qu'il parte à l'impression en fait, je n'avais pas le temps de le relire. Alors que tu vois, j'avais quand même 2 mois et demi de congé mat. Et je n'avais pas eu le temps. Enfin, je l'avais relu, mais vraiment, c'est la seule chose que j'ai pu faire. Donc, je suis arrivée début septembre. Ma fille était en crèche. Et là, je me suis dit, waouh, tu as 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour où vraiment tu peux faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas d'enfant à gérer pendant 10 heures, pendant 9 heures. Donc là, il faut se mettre à fond. Donc, rentrée septembre 2021, je décide de me mettre à fond. J'établis un vrai business plan. Je pense tout, enfin chaque partie du projet, je le professionnalise vraiment. Et je ne me donne pas vraiment d'objectif de rémunération. Je me dis juste, il faut que j'aie des rentrées d'argent suffisamment, on va dire, pour à la fin de l'année prochaine me dire que je peux me rémunérer, que je peux me sortir un salaire, quoi. Mais même le minimum, je crois que j'avais calculé si je veux juste avoir genre entre 1000 et 1500 euros, ce qui est... Enfin, tu vois, genre si je veux juste avoir le SMIC. En gros, je m'étais dit ça.
Ouais.
Ce sera un bon début. Et ouais, je m'étais juste fixé un an. Je m'étais dit un an, parce que je crois que j'arrivais au bout de mon chômage. Oui, c'est ça. Je m'étais fixé la fin de mon chômage, en fait. Je m'étais dit, à la fin de ton chômage, il faut que tu aies au moins de quoi te verser un SMIC. Pour juste te dire, c'est la première pierre à l'édifice. Je ne demande pas à gagner des milliers et des milliers d'euros, mais juste avoir l'assurance de me dire quelque chose est enclenché et ça marche, quoi. Et j'ai de bonnes prévisions et ça peut commencer à rouler.
Et c'était quoi, du coup, tes prévisions de monétisation ? C'était quoi, par des événements, par la sponsorisation du podcast ?
Ouais, alors il y avait plein de choses. Il y avait la sponsorisation du podcast. Donc, j'avais vraiment créé tout un kit média avec plein de packs différents pour le podcast. Donc, tu avais le choix soit d'être sponsor du podcast sur une saison, soit de collaborer sur un épisode ou plusieurs. Et ça, je l'avais déjà fait, du coup, avant d'avoir ma fille, je crois. J'avais fait deux ou trois épisodes en collaboration, en partenariat avec des marques. Donc, c'était quelque chose que j'avais déjà un petit peu réfléchi avant. Il y avait ça. Il y avait le Club Femmes d'Art, donc qui sont des soirées qui réunissent des femmes qui évoluent dans le monde de l'art et les industries créatives. Des soirées que j'avais pareil pensé avant de penser à monétiser le projet et qui marchaient vraiment bien, qui existent toujours aujourd'hui, qui marchent toujours vraiment bien. Et là, c'était soit pareil, avec des partenariats avec des marques, soit avec un concept d'adhésion que j'avais créé, donc en fonction de si tu étais une professionnelle de l'art, si tu étais plutôt une amatrice, si tu étais une artiste, tu avais différents, ou étudiante, tu avais différentes formes d'abonnement. Mais ça, c'est pareil, j'avais conceptualisé, j'avais lancé les pré-adhésions. Donc, j'avais déjà reçu aussi des mails, des messages de personnes qui me disaient « moi, je veux adhérer quand ce sera ouvert ». Il y avait ça. J'avais aussi lancé un magazine digital. C'était un magazine que je voulais papier, mais sauf qu'à l'époque, le prix du papier avait explosé parce que c'était tout juste après le Covid et que le prix des matières premières était juste hallucinant. Donc, il y avait ça. Et dans ce concept-là de magazine, c'était vraiment un magazine que je voulais comme étant un bel objet qui soit un peu intemporel, avec deux ou trois éditions par an, que tu puisses feuilleter comme ça, par plaisir, qui ne soit pas rattaché vraiment à de l'actualité. Et là, le fonctionnement était très simple. C'était de la pub, mais de la pub vraiment ciblée, c'est-à-dire que je voulais que des annonceurs qui aient un intérêt, enfin pour lesquels mes lecteurs et mes lectrices aient un intérêt. Donc, des institutions culturelles, des galeries, des acteurs du monde de la culture ou du luxe, et pas, pas une marque de voiture ou de la bouffe ou j'en sais rien. Donc, il y avait ça. Et après, il y avait un autre pan encore. Donc, ça faisait pas mal de choses. L'autre pan, c'était du conseil et de la création de contenu en marque blanche. Donc là, c'était du conseil pour les institutions culturelles, soit sur de la création de contenu, soit sur leur approche plus inclusive et paritaire. Et la création de contenu en marque blanche, c'était pareil pour à peu près les mêmes acteurs. Donc, c'était tout ça. Ça faisait beaucoup de choses.
Bah ouais. Non, t'avais quand même bien réfléchi le truc. T'avais quand même plusieurs pistes. OK. Et donc là, est-ce que tu atteins tes objectifs à la fin du chômage ?
Non.
Ok.
Non, parce que il s'est passé plein de choses entre temps, mais en tout cas sur les six, on va dire non, entre septembre et février, je vois que c'est plutôt bien reçu. J'ai pas mal de touches, j'ai pas mal de pistes, j'ai aussi pas mal de collaborations qui sont déjà enclenchées avec des institutions ou des acteurs du monde de la culture. Mais je vois aussi que c'est très difficile. C'est très, très difficile. Alors, Il y avait l'aspect psychologique du fait qu'en fait, j'étais en plein postpartum encore et que juste j'ai repris sur les chapeaux de roue et qu'en fait, je me suis épuisée. Et il y avait les difficultés de... moi, je suis journaliste, je suis créative. Enfin, j'ai plutôt une approche créative. C'est un projet que j'ai monté par passion. Donc forcément, je ne l'ai pas monté initialement avec l'envie de gagner de l'argent. Et du coup, je me retrouve confrontée à la difficulté de ne pas être, de pas avoir de fibre suffisamment commerciale, de ne pas être shark, de pas me sentir à l'aise dans le fait d'aller négocier des contrats avec des acteurs culturels, de pas être, de pas avoir assez cette fibre commerciale. Et en fait, je me rends compte aussi que le secteur de la culture, c'est pas un secteur qui a énormément d'argent. T'as des institutions culturelles qui portent des noms très luxueux, sans citer personne, mais qui en fait ont aucun lien avec les marques qui portent ces noms-là aussi, donc qui du coup n'ont pas les mêmes budgets. Et les premières collaborations que je noue avec certaines institutions culturelles, derrière se renouvellent, mais se renouvellent avec énormément de négociations. Donc, je faisais pas des tarifs hyper agressifs, étant donné que même si j'avais déjà la notoriété, j'étais quand même un média qui se lançait. Et en fait, face à moi, j'avais des gens qui, à chaque nouvelle collaboration, me disaient « Oh, bah non, mais là... on propose 500 euros de moins. » Je dis « Ouais, mais non, mais en fait, moi, ça n'a pas changé. C'est toujours la même expertise, c'est toujours le même travail, c'est toujours la même qualité de ce contenu que je crée. » Et ça, sans compter aussi d'autres acteurs qui carrément te disent « Non, mais désolé, on n'a pas de budget. Ouais. » Ouais, mais ok, mais du coup, pourquoi vous venez me voir? Enfin, est-ce que vous estimez que je vais faire quelque chose gratuitement? Donc voilà, et en fait, tout ça m'épuise. Très vite, couplé au fait que vraiment, je suis en épuisement physique et psychologique dû à toute cette année très chargée que j'ai vécue et à mon postpartum. Et moi, je pensais vraiment que, hop, au bout de 3 mois, ça allait rouler. Et en fait, non, parce que j'ai mis bien 1 an et demi ou 2 ans avant vraiment de me remettre vraiment totalement sur pied. Et je commence à m'en rendre compte. Parce que je dors plus. Enfin, je dors plus. Je dors, mais je me réveille la nuit. Ça, c'était vers le mois de février, en reprenant mon souffle, comme si j'étais en train de me noyer. Et très, très belle allégorie de moi qui avais l'impression de me noyer dans ma vie quotidienne. Et je vais voir un médecin qui me prescrit des anxiolytiques en me disant « Vous êtes peut-être un petit peu... sur le fil, là, faites gaffe, quoi. » Et puis, je me dis, non, mais ça va passer. Ça va passer. Et en fait, ça passe pas. Et je commence à perdre un peu le goût de ce que je fais. Parce que j'ai l'impression que c'est très... je le fais avec moins de passion, tu vois. C'est très répétitif. Je me dis, ça, je le fais parce qu'il faut que je le fasse. J'ai dit que ce podcast, il était hebdomadaire. J'ai des potentielles entreprises ou institutions derrière qui me regardent, il faut que je le fasse, il faut que je montre que c'est professionnel, que c'est sérieux, donc je le fais, quitte à le faire alors que j'en ai pas envie. Là, j'ai plus d'idées pour créer les prochains posts sur Instagram. C'est pas grave, je le fais quand même, mais du coup, tu le fais, mais tu le fais mal, et du coup, t'es un peu déçu de ce que tu fais, et tu te dis, ah, c'est nul, et t'es dans un cercle vicieux je suis pas motivée et je trouve ça nul et c'est pas ce que je voulais à la base, quoi. Donc c'est un peu tout ça qui a fait que après je sais pas si j'anticipe ta question.
Non
pas,
mais
tu
moi
je me coupe si tu veux.
Non, mais j'allais dire, c'est hyper intéressant parce que je trouve que c'est un exemple qu'on a, enfin une histoire en tout cas qu'on a assez peu traité dans le podcast, c'est le fait que tu as un side project, un projet un peu passion qui d'un coup devient ton projet professionnel à plein temps, et ça soulève du coup plein de questionnements, plein de nouveaux problèmes, et puis plein de challenges. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que c'est pas toujours tout blanc de je quitte mon job pour faire ce truc et ça marche et tant mieux, tu vois. Parfois c'est je quitte mon job pour faire ce truc, mais il y a 1000 aspects que j'avais pas du tout anticipés qui sont là et maintenant qu'est-ce que je fais? Et du coup, ça c'est intéressant parce que donc là, t'es vraiment au point où tu te rends compte que tu finis par faire les choses un peu sans goût, ce qui est quand même pas, ce qui n'était pas du tout le cas au début ou en tout cas, c'était pas le cas quand tu t'es lancé. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est du coup, quelle est ta réflexion à ce moment-là? Tu vois, comment tu fais pour prendre ta décision, pour savoir comment tu vas faire pour la suite?
Ouais, bah très très dur en vrai parce que entre temps j'avais fait entrer une stagiaire dans l'équipe mais il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait que moi. J'avais fait entrer une stagiaire dans le projet qui était là pour 6 mois, donc elle qui avait très envie, qui croyait beaucoup aussi, et je savais pas trop comment lui donner sa place à ce moment-là parce que vu que j'étais en réflexion, vu que je sentais qu'il fallait que j'aie une réflexion. Et c'était pas facile parce que à ce moment-là, forcément, tu prends aussi un peu conseil autour de toi. Et moi, j'avais plein de gens autour de moi qui me disaient mais c'est génial ce que tu fais. Souvent, enfin, je pense que certainement toi, c'est pareil aussi. T'as plein de
ouais,
gens qui
disent ouais.
c'est super, mais qui voient que le côté c'est super et pas les difficultés et qui du coup, moi, me disaient mais accroche-toi, t'inquiète pas, ça va marcher. Et de l'autre côté, j'avais mon conjoint qui, lui, est beaucoup plus réaliste. et c'était une chance aussi, qui me disait il faut que tu te poses des questions. Il faut que tu réfléchisses.
Oui, puis tu as surtout aussi tous les gens qui te, enfin, de manière assez bienveillante, te disent c'est super, etc. et qui vont aller chercher ton contenu gratuit, écouter tes épisodes, etc. Tu vois, et dès qu'il faut te soutenir financièrement, parce que comme tu le dis, bah, tu mets du temps, enfin, c'est ton job en fait. Donc dès que tu as besoin que les gens investissent aussi en toi ou bah, payent pour des choses que tu fais, bah, souvent il y a beaucoup moins de monde et du coup c'est hyper difficile, tu vois, de dire d'un côté, les gens viennent pour des choses gratuites, ils sont hyper contents de ce que je fais et en même temps, il y a peu de monde qui vient soutenir financièrement le projet.
Ouais, grave. Totalement d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, quand j'avais sorti le premier magazine, je crois que c'était le premier, je l'avais fait payer mes 5 euros, tu vois. C'était vraiment pas énorme. Ouais. C'était 5 euros, tu les mets facilement dans je sais pas, un livre, un goûter.
Ouais. Bah non, ça, c'est quand même pour payer le coût du travail, du papier. De
c'est tout. Ça. Et j'avais eu, dans toute la com que j'avais fait autour du magazine, j'avais eu des milliers de likes, des centaines de partages, de commentaires, de messages. Et je crois que j'en ai vendu 150.
Ouais.
Tu vois. Ce qui est déjà bien.
Oui, enfin,
je veux dire, ce qui n'est pas dégueu, mais 150 sur les milliers de personnes qui te likent et qui te repartagent et qui te disent en effet c'est génial, c'est vrai que c'est ce que tu disais, ça illustre bien le fait que y a aussi beaucoup de gens qui aiment bien consommer son contenu gratuitement et qui du coup veulent pas forcément que ça s'arrête.
Oui.
Et puis tous les autres qui trouvent ça vraiment génial ce que tu fais mais qui mettraient pas forcément d'argent non plus quoi. Donc, ouais.
Donc, là, t'as ton conjoint qui te dit « Ok, c'est le moment de prendre une décision, de réfléchir à la suite. » Et du coup, toi, ça te fait un espèce de déclic un peu ou...
Lui, il est très comme ça aussi. Il est très, carré dans... Enfin, c'est un entrepreneur, mais pas au sens start-up. C'est un entrepreneur d'entreprise mature. Et du coup, je le voyais parfois un peu comme... il veut trop me cadrer et moi, je veux aller à mon rythme. Donc, je l'écoutais, mais ce n'était pas non plus mon déclencheur, même si ça m'a beaucoup aidée. Mon déclencheur, c'est que j'ai pris conscience de plusieurs choses. D'abord, que mes soucis de sommeil, c'était lié à ça, parce que je croyais que c'était autre chose. En fait, ce n'était pas du tout autre chose. C'était vraiment lié à ce stress autour de ce projet. Et je prends conscience aussi que je pensais... aimer le fait de travailler seul et qu'en fait, en travaillant avec une stagiaire, je me suis rendu compte que le contact avec les autres me manquait. Et troisième chose, je me rends compte aussi que mon métier vraiment de journaliste, je le faisais plus trop là et que j'avais peur aussi de m'en éloigner un peu. J'avais pas envie de m'en éloigner un peu et que j'avais besoin d'y retourner. Et en gros, ce que j'ai fait, ce que je fais souvent, en fait, quand ça ne va pas, quand j'ai besoin d'avoir des réponses, c'est que j'arrête de réfléchir. Je ne sais pas si ça te fait ça, toi aussi, mais quand tu mets ton cerveau sur stop, en fait, évidemment que ton cerveau continue à travailler en arrière-plan. Et moi, c'est tout le temps comme ça. Quand je mets mon cerveau en stop, à la fin, au bout du chemin, j'ai la réponse. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, j'arrête pendant une semaine de travailler.
Attends, comment t'as mis ton cerveau en pause ? Moi, ça m'intéresse beaucoup, hein, parce que c'est un challenge.
Vraiment, je me suis dit, je me prends quelques jours. Okay. Où je me dis, je ne fais rien. Vraiment, je suis en vacances, mais en restant chez moi à Paris. Je coupe les réseaux sociaux, je coupe mon téléphone, je dis aux gens que je suis indisponible et je me lève le matin sans savoir ce que je vais faire dans la journée. Donc évidemment je finissais par me poser sur mon canapé, lire un livre, aller me promener, j'en sais rien, mais en tout cas je suis uniquement mon envie du moment et je coupe tout vraiment. Après moi j'arrive assez facilement à muter mon téléphone et à pas répondre quand je sens que j'en ai besoin. Et voilà, et en fait, juste, je pense pas. Oui. J'essaye de pas penser. Et ça repose déjà ton cerveau quand même. Parce que parfois, quand t'as un problème, t'as l'impression qu'en réfléchissant, en réfléchissant, en réfléchissant sans cesse, tu vas régler ton problème. Alors qu'en fait, parfois, c'est justement...
Ouais, c'est quand tu lâches. Ouais.
C'est quand tu lâches. Et du coup, j'ai lâché pendant 4-5 jours. Où effectivement, j'ai rien fait. J'ai lu des livres, j'ai écouté quelques podcasts. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je suis allée me promener. J'écoutais vraiment juste mon envie. Et à la fin de la semaine, déclic, je me suis dit, OK, là, il faut que je mette le projet en pause. Et il faut que je retourne dans une rédac, quelques temps. Le temps de voir où j'en suis, quoi. Enfin, et j'ai besoin de retourner là dans une rédac avec un job stable à faire mon métier de journaliste. Et quoi qu'il en soit, là, je ressens le besoin de mettre ce projet en pause.
Et est-ce que tu as vécu ça un peu comme un échec ou pas vraiment ? Enfin, pour toi, tu t'es dit c'est juste la suite de quelque chose
Au début, ouais, grave. Au début, grave. Parce que je sentais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Mais déjà, c'était plus vis-à-vis des autres. C'était pas tant vis-à-vis de moi parce que je sentais qu'il fallait que je le fasse. Mais comme on disait, les gens qui sont autour de toi et qui te disent « mais si, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher ».
Mais ils sont pas dans le projet.
Ouais. Ils sont pas dans le projet. Et j'ai dû dire à des personnes qui me sont proches et qui sont vraiment très bienveillantes, qui croyaient en le projet, j'ai dû leur dire « écoute, j'arrête. Pour l'instant, je mets en pause ». Ça a été hyper bien accueilli, mais j'ai eu du mal à le dire aux autres parce que, et d'ailleurs, je ne l'ai jamais annoncé sur toute la com de Femme d'Art, hein, j'ai juste mis en pause un temps. Et j'avais peur que les gens me disent ok, bah tu sais,
ouais.
Ok, bah. Tout ça pour ça, ou elle a pas réussi. Mais, ou alors, comment elle a fait pour pas réussir alors que c'était génial, tu ouais. vois. Et derrière, j'avais aussi mon conjoint, pareil. Lui, il ne me mettait pas de pression, mais moi, je me mettais une pression vis-à-vis de lui parce que maintenant, on n'était plus deux, on était trois et qu'on avait aussi des frais à sortir chaque mois pour notre fille. La crèche qui coûte super cher, les frais que tu as autour d'un bébé. Et je me disais, c'était ça aussi ma pression, c'est que je me disais, il faut que je réussisse ce projet parce que si j'y arrive pas, je vais devoir arrêter. Mais si j'y arrive pas, je vais pas pouvoir payer tout ce que j'ai à payer. Je vais pas. Et donc, je me mettais une pression vis-à-vis de lui aussi en me disant, là, il m'a grave soutenue. Il faut que je lui montre que je vais y arriver. Il y a ça aussi, les gens qui te soutiennent vraiment autour de toi et où tu te dis, je ne peux pas les décevoir. Ils m'ont soutenue, il faut bien que ça te paye derrière, au sens propre et au figuré, quoi.
Ouais, je comprends.
Et après, pour moi, je l'ai moins vu comme un échec parce que vraiment, c'était une nécessité. Après, il y a quand même eu un temps où... c'était plus socialement. J'avais du mal à le présenter. C'était « Ah, t'en es où avec Femme d'Art ?» Je n'avais pas trop quoi répondre parce que je n'avais pas envie de dire « ça n'a pas marché » ou « ça ne marche pas » ou « ça n'aurait pas dû marcher comme ça aurait dû marcher ». Mais c'était vraiment plus vis-à-vis des autres parce que aujourd'hui je le vois totalement différemment. Je pense que le temps a fait que aussi, puis c'est resté quand même un succès aussi parce qu'il y a le livre, qui s'est très bien vendu. Je reçois encore plein de messages aujourd'hui de gens qui me disent ce podcast a changé ma vie parce que c'est comme ça que je me suis lancée dans tel secteur. Et donc je me dis ça. C'est pas un échec, c'est un échec financier. Enfin, en tout cas, c'était pas un projet qui
était assez monétisable,
voilà,
ou viable, quoi.
Qui était viable. Il aurait pu l'être, mais différemment. Mais c'est pas un échec sur le fond, parce que c'est quand même, ça a quand même existé et ça a quand même permis à des personnes de. Enfin, aujourd'hui, le livre, je sais qu'il est dans plein de bibliothèques, tu vois, universitaires et.
Ouais.
Ça, c'est juste, je crois, une des plus grandes fiertés que j'ai aussi avec ce projet. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, des personnes qui sont devenues des proches amis aujourd'hui. Donc, je le vois différemment.
Ouais.
Mais ouais.
Parce qu'aujourd'hui, tu continues. C'est-à-dire que là, tu as repris donc, ton travail de journaliste, mais tu continues quand même à le garder un peu en side project,
ouais.
Peut-être un peu plus light.
Ouais. En fait, pendant... Je dirais 6 mois, il ne s'est rien passé. Donc, j'ai pris ce job et la vie est assez bien faite quand même parce que le jour où, à la fin de cette semaine où j'ai mis mon cerveau en pause, je suis allée sur Welcome to the Jungle. J'ai regardé les offres d'emploi et je suis tombée sur une offre d'emploi, donc rédac chef de Mademoiselle, avec la description du poste qui était en fait exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là. J'ai postulé et tu vois... 3 semaines après, j'ai commencé le job, quoi. Donc, en fait, ça s'est fait très vite. Et vu que c'était un gros poste, ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Ce qui fait que, naturellement, j'ai été obligée de délaisser Femme d'art. Donc, pendant 6 mois, j'ai rien fait. J'ai pas publié d'épisode. Il n'y a pas eu de soirée. Il n'y a pas eu de post sur le compte Instagram. Et pendant ces 6 mois, ce qui est fou, c'est que les écoutes ont continué à grossir. Et le compte Instagram a gagné, genre, je crois, 10 000 abonnés, un truc comme ça. Et j'étais là.
Sans rien faire.
Sans rien faire. J'étais là, bon, bah, ok. C'est bien. Ça continue à vivre. Et je savais pas. Je savais pas du tout. J'avais encore comment dire, cette lassitude. Donc, je savais pas si j'allais reprendre. Et un jour, vraiment, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, ah, j'ai envie de reprendre. Mais pas de la même manière. J'ai envie de reprendre comme c'était au début, à savoir un projet plaisir. Et au même moment, j'ai une amie qui m'a dit « Mais attends, si tu as besoin d'aide sur les soirées notamment, moi, je peux t'aider. Donc, n'hésite pas. » Et c'est elle aussi qui m'a aidée à remettre sur la partie des soirées le pied à l'étrier et qui m'a aidée aussi juste logistiquement à organiser tout ça. Et donc, j'ai repris. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment un projet plaisir que je continue à faire à côté. Il y a quand même, au fond de moi, parfois, l'idée que peut-être il faudrait que je recrée une structure. Parce que, tu vois, du coup, j'avais ouvert une boîte, je l'ai fermée. Et là, je recommence à avoir des propositions de collaboration, des choses comme ça. Et alors, il y en a plein auxquelles je dis non. Et il y en a certaines où je me dis « Ah bah ouais, mais ça pourrait être intéressant, mais du coup, bah là, j'ai plus de structure. » Donc, je suis un peu dans un entre-deux bizarre. Et en même temps, je suis pas certaine d'avoir envie de revenir à quelque chose de trop entrepreneurial pour le moment. Parce que j'ai aussi envie d'explorer plein d'autres choses. Mais voilà, après, j'ai aussi repensé le projet... J'ai refait la DA du podcast. Je recommence les interviews avec des profils un peu plus variés qu'avant, avec une trame de questions différente, une approche des épisodes différente. Et donc, ça. Le projet a un peu changé aussi. Je suis en train d'écrire une BD aussi, qui est quand même toujours en lien avec Femmes d'art, de portraits de femmes artistes qui sort là en fin d'année. Donc, y a plein de choses qui continuent à se passer, mais ça reste du plaisir. C'est-à-dire que demain, je vais sortir un épisode, peut-être, et peut-être que le prochain, il sortira dans 2 mois, et c'est pas grave. Enfin, et je veux dire, je suis, moi, OK avec ça, maintenant.
Ouais, tu te mets beaucoup moins la pression. Ouais. Non, c'est hyper intéressant. Mais alors, du coup, est-ce que dans tout ton parcours, il y a des choses que tu regrettes ou est-ce qu'en fait, tu referais de toute façon exactement la même chose ?
Il n'y a pas de choses que je regrette. Mais en revanche, je ne referais pas pareil. Je ne referais pas pareil. Il y a plein de choses que je ne referais pas pareil. Franchement, il y en a plein. Je pense que je conceptualiserais le projet plus tôt. Enfin, je le penserais afin d'être monétisé plus tôt. Parce qu'au final, il y a plein de choses que j'ai lancées avec Femme d'art par plaisir et où après, je me suis dit, ah bah, ça, ce n'est pas monétisable. Ou alors, c'est mal monétisable. Ou alors, par exemple, l'idée d'avoir de la pub dans un magazine, c'est dépassé. Et je le sais, je suis journaliste, tu vois. Mais c'est un peu dépassé quand même. Et voilà. Et peut-être que je serais plus honnête envers moi-même aussi. À savoir, essayer de comprendre quelles sont mes qualités et où est-ce que j'ai des manques. Parce que, comme je disais, moi, je suis un esprit plutôt créatif, moins commercial, et j'ai attendu longtemps avant de le réaliser. Enfin, j'ai mis longtemps à le réaliser. Et je pense que si je l'avais réalisé plus tôt, j'aurais peut-être, peut-être que je serais allée chercher quelqu'un qui a plus cette approche-là, que je me serais associée à cette personne, en mode... Et j'en avais plein des personnes autour de moi qui avaient envie de monter des projets et qui auraient pu être ces personnes-là. Mais je suis restée toute seule et j'ai pensé que je pouvais tout faire toute seule. Et c'est faux. Je ne pouvais pas tout faire toute seule. Et la preuve, parce que sinon, je pense que ça se serait peut-être passé différemment. Mais donc, je ne regrette rien parce qu'au final, ça m'a appris plein de choses. Mais si je devais refaire les choses, je les ferais différemment, c'est sûr.
Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens, parce qu'il y en a beaucoup, des auditrices qui ont, ou des auditeurs aussi, qui ont des projets un peu passion ou tu vois, side project et qui ont envie de se lancer à plein temps, tu vois, qui sont un peu à ce moment charnière. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour, même si tu ne peux jamais vraiment tout checker à fond avant de te lancer, mais est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer ?
Il y a un truc, moi, qui m'a beaucoup... mis la pression, c'est le fait de ne pas être safe financièrement, personnellement, parce que j'ai la chance d'avoir eu mon conjoint qui gagne bien sa vie, qui m'a dit « t'inquiète pas, je suis ton backup pendant ce projet », mais comme je le disais tout à l'heure, je me sentais aussi d'une certaine manière un petit peu redevable, tu vois, faut que ça marche. Et je pense que si j'avais eu un petit bagage financier, qui m'avait permis soit d'investir dans mes projets, soit de me dire je suis safe si jamais ça marche pas tout de suite, j'aurais été beaucoup plus sereine psychologiquement et peut-être que je me serais moins mis la pression. Mais après, je sais très bien que tout le monde ne peut pas, moi je l'avais pas ce bagage, tout le monde ne peut pas l'avoir ce bagage financier, et en même temps j'ai aussi envie de dire, si vous l'avez pas, faut pas que ce soit ça qui vous arrête. Parce que même en partant de zéro, même en partant de rien, sans investissement, sans argent, on peut arriver à faire plein de choses. Parce qu'on peut avoir un très beau projet, qu'on peut rencontrer des personnes sur notre route qui croient en nous, qui investissent, et ça peut marcher. Donc peut-être l'autre conseil que je donnerais, c'est de faire de pas partir trop vite. Enfin, quand je dis pas partir trop vite, c'est prendre le temps de faire un petit bilan avec soi-même sur « Ok, c'est quoi exactement mon projet ? Quels sont mes... comme ce que je disais juste avant, quels sont mes vrais points forts ? Quels sont mes points faibles, surtout ? Et donc, du coup, où est-ce que je dois demander de l'aide ? Parce que c'est pas un gros mot de demander de l'aide. Au contraire, il y a ce truc hyper... un peu de fierté qu'on a, qui est très français... de se dire « Non, j'ai réussi moi-même. » Ouais, mais enfin, c'est aussi très bien de demander de l'aide. Ça ne veut pas dire que tu es faible, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Ça veut dire que tu prends le max de retours de personnes qui sont déjà passées par là ou qui peuvent t'apporter de l'expérience. Et peut-être la chose complémentaire, ce serait de dire aussi à ces personnes, en fonction du secteur dans lequel elles veulent entreprendre, même si c'est, et encore plus si c'est un sujet passion, d'aller de prendre contact avec des gens qui évoluent déjà dans ce secteur, qui ont peut-être monté des projets professionnels ou juste passion et d'aller leur proposer un déj, leur demander des conseils. Et en fait, les gens, on a toujours peur de prendre contact avec eux, de les déranger, etc. Et en fait, les gens, ils sont toujours hyper friands de transmettre, de donner des conseils, de faire des retours. En général, les gens sont bienveillants, franchement. Donc, je dirais, voilà, de faire ça. Et la dernière chose, pardon, c'était qu'un conseil, j'en donne plein. Et la dernière chose, c'est vraiment de se mettre un cadre et des limites. Parce que quand c'est un projet passion, comme on le disait au début de l'épisode, on ne voit pas les heures passer, on voit pas, et on ne voit pas à quel point on peut s'épuiser à la tâche parfois parce que on aime tellement ce qu'on fait qu'il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de limite. Sauf que le burn-out, il est vrai aussi pour les projets passion et surtout pour les projets passion parce que justement, on ne se met pas de limite. Et il y a un moment donné, même si on aime ce qu'on fait, on peut juste ne pas réussir à se lever un matin. Et en fait, ça peut, mine de rien, un peu se foutre en l'air aussi. C'est hyper important d'avoir une frontière entre ce qui est de l'ordre du travail, quand bien même c'est de la passion, et ce qui est du moment de repos et de chill et de je ne fais rien. Et je pense à autre chose.
Ouais, ça, je suis d'accord. Tu as plus tendance, quand c'est ton projet à toi, à ne plus avoir de week-end parce que c'est ça glisse comme ça et tu n'arrives plus à mettre de barrières entre ta vie pro, ta vie perso, enfin, tout est un peu mélangé, quoi.
Et après, ça devient une obsession. Ouais. Et c'est mauvais quand ça devient une obsession. J'en rigole maintenant, mais moi, c'était devenu une obsession et c'est pas sain.
Et sur ces sujets-là, du coup, plus entrepreneuriaux ou changement de vie, est-ce que tu as des inspirations, des livres, des personnes, tu vois, que tu pourrais recommander ?
En vrai, beaucoup de mes inspirations, c'est des gens de mon entourage, mes amis notamment. Je parlais de Tiffany Boyle tout à l'heure, qui est artiste et qui est surtout une super entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, tu peux malheureusement pas être que artiste. Il faut aussi que tu vendes ton travail. Et donc, autour de moi, j'ai des femmes qui entreprennent et qui sont du coup aussi très inspirantes, qui ont donné quelques interviews en podcast. Donc, ça peut peut-être aussi intéresser des personnes qui écoutent. Céline Chung aussi, qui est la fondatrice de Bao Family. Et qui, elle, pareil, c'est juste une entrepreneur incroyable, pour le coup, très complète et hyper successful, et qui aussi fait face à des défis, plein, mais qui arrive à les relever et qui est vraiment une personne qui est une de mes bonnes amies et qui est très inspirante aussi. Je voulais citer une autre personne, Jessica Troisfontaine, qui est...
Tu sais qu'on fait un podcast live dans 2 semaines avec elle.
Ouais. Trop drôle.
Ouais, le 18 janvier, exact. Trop. Donc tu vois, ça te
voit. J'ai les bonnes personnes, mais je la cite parce que pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est une personne qui était avant avocate, qui a ensuite monté une marque de fringues qui était génialissime, que j'adorais.
Septem,
voilà. Qui faisait des super combinaisons, mais pas que. Et qui a basculé, justement, puisqu'elle a fermé Septem. Elle a mis fin à cette belle aventure. Et aujourd'hui, elle se lance dans plein d'autres projets. Et c'est un bel exemple de résilience, je trouve, à travers un parcours d'entrepreneuriat et de bascule aussi, parce que je suis sûre qu'elle va réussir à faire des choses géniales. Enfin, elle en fait déjà aujourd'hui. Donc, je citerai déjà ces 3 personnes qui m'inspirent beaucoup. Et après, j'ai écouté des podcasts comme celui de Pauline Léniaud, je pense que tout le monde le connaît déjà, où il y a pas mal d'entrepreneurs qui interviennent et qui racontent leur parcours. C'est plus des lectures sur des... C'est pas vraiment des lectures sur l'entrepreneuriat à proprement parler, mais... J'aime bien lire des biographies d'entrepreneurs, en vrai, mais aussi de plein de personnalités différentes. Et il n'y a pas longtemps, j'ai lu un petit livre qui s'appelle « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin.
On en a déjà parlé, ouais.
Ouais, qui est vraiment super, franchement, je le recommande à tout le monde. Et il ne faut pas forcément être en train de vivre un échec pour le lire. Mais ça permet de mieux comprendre ce dont je parlais tout à l'heure, pourquoi en fait en France on a si peur de l'échec et du coup pourquoi on se lance pas aussi. Alors que dans plein d'autres pays, en fait, l'échec, c'est plutôt perçu comme une fierté. Et que plus on tombe, mieux on sait se relever. Et dans ce livre, Charles Pépin, il cite plein de références. Donc, c'est pour ça déjà que je cite ce livre, parce qu'il y a plein de références de personnalités qui ne sont pas forcément des entrepreneurs, mais des artistes qui ont pu vivre plein de rebondissements, de bascules et d'échecs et de succès dans leur vie. Il cite Barbara, la chanteuse, il cite Raphaël Nadal et il cite Steve Jobs. Je pense que tout le monde connaît la biographie de Steve Jobs. Je crois que c'est Walter Isaacson qui l'a écrite et ça m'a donné très très envie de la lire parce que Steve Jobs il s'est d'abord fait virer de sa propre boîte quand même parce qu'il était trop arrogant, parce qu'il avait un management hyper rude, pour au final y revenir 12 ans plus tard avec énormément d'expérience, d'humilité, une vision différente. Et c'est un exemple que je trouve chouette pour se dire que en fait on peut se lancer, on peut se foirer, on peut basculer, on peut y revenir, et en fait ça pourra être différent, ça pourra être mieux, mais il y a plein de choses à apprendre dans les bascules de nos vies, dans les chutes, dans les échecs aussi. Et donc ça pour dire qu'il y a cette biographie là. Mais qu'en réalité, je recommande les biographies de plein de gens qui peuvent vous inspirer, qui soit ont évolué dans des domaines dans lesquels vous avez envie d'évoluer ou pas, ou qui vous inspirent juste. Mais voilà, ce petit livre peut être une inspiration pour après rebondir sur d'autres livres aussi et d'autres parcours très inspirants.
Chouette, je note. Je vais me le rajouter sur ma to-do, le petit bouquin sur la vertu de l'échec.
J'ai clairement corné toutes les pages et souligné toutes les pages.
Non, mais je crois que ça fait plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est aussi Charles Pépin, on m'en a conseillé un sur le bonheur. Ah. Je me demande si ce n'est pas lui aussi.
Je sais qu'il a écrit plein de bouquins. Super, là, je suis en train d'en lire un autre sur vivre avec son passé. Bah, c'est celui qui est sorti l'année dernière, d'accord, je crois. Pareil, hein, ça fait très peur dit comme ça, mais c'est plutôt un livre sur la mémoire et l'impact de la mémoire sur nos vies. Donc, c'est hyper intéressant. Et c'est aussi un livre sur la famille et comment vivre avec sa famille.
Ok, je le rajouterai dans la description du podcast. Voilà. Et Marie-Stéphanie, on arrive à la fin du podcast, de l'épisode. J'ai une dernière question rituelle pour toi qui est: quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer? Ouais,
c'est dur comme question.
Ouais, c'est dur.
Déjà, c'est passé trop vite cet épisode. J'espère que j'ai pas trop parlé. Le faire, tout simplement. Le faire. Et je crois que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a donné quand ça allait pas très bien à l'époque, femme d'art. Enfin, quand j'étais un peu dans le down et que du coup, j'arrivais pas à avancer. Je savais pas quoi faire. Je savais pas s'il fallait basculer. Je savais pas s'il fallait continuer. Et c'est une galeriste qui m'a dit ça, Lara Sedbon. Merci Lara, si tu m'écoutes, pour ce conseil, parce qu'il m'a bien aidée sur le moment. Et encore aujourd'hui, elle m'a dit, en fait, il faut y aller. Il faut juste être dans l'action et tu verras. Et ben, j'ai envie de dire, pareil pour les gens qui ont envie de basculer, soyez dans l'action, allez-y. Et au mieux, ça marche. Et au pire, c'est pas grave. Mais il vaut mieux y aller. Se foirer, s'il faut se foirer, mais réussir, parce qu'on peut aussi réussir, plutôt que vivre avec des regrets et se dire « Oh, j'aurais pu le faire ». Et c'est hyper frustrant aussi de vouloir faire quelque chose et de pas s'écouter. Et je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour basculer non plus, en vrai.
Merci beaucoup pour tous tes conseils. Pour ceux qui veulent en savoir plus, principalement, c'est sur Instagram, sur le compte Femmes d'Art.
Ouais, sur le compte Femmes d'Art, sur le mien aussi, et sinon, je réfléchis.
Il y a le livre aussi, peut-être.
Il y a le livre.
Qui est encore en vente, il est encore...
Qui est toujours en vente, partout, enfin dans les FNAC, les Citres, les librairies de quartier.
Qui s'appelle Femmes d'Art aussi.
Ouais.
Ok.
Qui est bleu.
Chouette. Merci beaucoup.
Voilà. Merci beaucoup à toi. À bientôt.
Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.